Les 21 jours d'un neurasthénique, chapitre 14. Après le déjeuner, je suis allée faire un tour au cercle et je m'abrutissais dans la lecture des journaux quand, tout d'un coup, un monsieur entra bruyamment et, m'ayant aperçu, poussa un cri de joie. « Parsifal ! » m'écriai-je. « Mon vieux Parsifal ! » !»« Eh bien, il faut venir ici pour te rencontrer, toi !» Et il m'embrasse tendrement. Parsifal n'est pas un mauvais diable, dans le fond. « Et c'est ainsi que tu veilles sur moi ?» me dit-il, ses effusions terminées. « Voyons, depuis combien de temps ?» C'était vrai. Il y avait bien 5 ans que je ne l'avais vu. « Tu sais, ce n'est pas chic, mon vieux » ajouta-t-il en me bourrant de joyeux coups de poing. « Parole, c'est honteux !» Parsifal n'était pas trop changé, pas trop vieilli. « Que fais-tu maintenant ?» lui demandai-je. « Un peu de tout, » répondit-il. « Ce que je trouve à faire. Je fais de la publicité dans les journaux, je place du vin de champagne. » Je suis secrétaire d'un vélodrome, et Poidatz m'a mis dans l'affaire de ces théâtres populaires. Tout cela n'est pas très riche. Le meilleur et le plus sûr de mon histoire, c'est que, par Rouvier, notre vieux Rouvier, j'ai obtenu le mois dernier une place de correcteur d'épitaphe pour les cimetières de la Seine. Oui, mon cher, c'est moi, maintenant, qui mets des déléatours sur les tombes. « Qu'est-ce que tu veux? 6 000 par an, c'est toujours ça de prix. »« Et tu as renoncé définitivement à la politique ?»« Il le fallait bien. J'étais brûlée, vois-tu? C'est ce qui m'embête le plus. Et pourtant... » Avec un mouvement comique, il me désigna ses poches. « J'avais quelque chose là. » Il soupira longuement. « Je n'ai pas de veine. » « Et ta femme ? » manquis-je après un petit silence. Parsifal, sur un geste comme s'il voulait rejeter loin, très loin de lui, une chose importune. « Ma femme, » dit-il, « mais elle est morte, mon vieux, il y a 2 ans. Une congestion pulmonaire l'emporta. Trop tard, hélas. » Car c'est à elle que je dois tous mes malheurs. Elle ne put jamais rien comprendre à la politique. Ses souvenirs l'avaient sans doute attristé. Il s'assit près de moi, prit un journal et se tut. Moi, je pensais au passé de Parsifal, et je le revoyais, ce brave Parsifal. Quand un matin de novembre, je me rappelle, il était entré chez moi, pâle, défait et me suppliant de le sauver. Il était alors député du Nord-Nord-Ouest. Je le reçus amicalement, comme de coutume, et avec un sourire opportuniste, car j'étais depuis longtemps habitué à ses façons d'agir. « Encore une crapulerie, sans doute » fis-je. « Naturellement, » répondit Parsifal. « Quoi d'autre pourrait m'amener chez toi à cette heure ?»« Eh bien, parle !» Car je le tutoie, bien qu'il ne soit pas, à proprement dire, mon ami. Non, mais il est quelque chose de pire. Il m'a été légué par Gambetta dans des circonstances que je vais conter. Et vous devez comprendre qu'un legs de Gambetta est sacré pour moi, bigre. Au moment de mourir, Gambetta me fit appeler. Et voici ce qu'il me déclara, d'une voix qui avait déjà le lointain de la cantonade, de la dernière cantonade. « Je te lègue Parsifal. Parsifal n'est pas un chien, comme tu pourrais croire. C'est un député de ma bande. Il représente ma politique dans le Nord-Nord-Ouest. Je te dis cela parce que tu n'es pas très au courant de mes petites affaires. » L'illustre homme d'État n'en menait pas large. On sentait que sa fin était proche. Après une pause de quelques secondes, il reprit, d'une voix moins méridionale, car la mort unifie tous les accents. « Je te lègue, Parsifal, bien que ce soit une affreuse canaille, comme le furent, hélas, quelques-uns de mes amis. Au fond, tout de même, ça n'est pas un mauvais diable. Veille sur lui, tu me feras plaisir. D'ailleurs, il a une femme qui... une femme que... » Et le pauvre grand homme mourut sur cet inachèvement. Qu'avait-il voulu dire par là? Ma foi, je ne le sais pas encore. D'autant que, ayant pris possession de mon legs, je ne tardai pas à reconnaître que si Parsifal était bien réellement une canaille affreuse, sa femme, laide, acariâtre et tyrannique, n'était pas du tout de ces femmes dont un amateur moribond peut vous dire à l'oreille qu'elles sont qui... qu'elles sont que... Non, en vérité, elles n'avaient rien. Rien de ce que de tels conjonctifs en suspension sur le rêve laissent supposer de folâtrie, d'intimité polissonne à des hommes qui... à des hommes que... Non, en vérité. Selon les intentions de l'illustre testateur, je veillais sur Parsifal. Et, cinq fois, grâce aux relations, disons, charnelles, que j'entretiens avec la bonne d'un vieux magistrat, très obscène, je fus assez heureux pour retirer Parsifal des griffes de la justice, au moment précis où le brave législateur du Nord-Nord-Ouest allait être condamné à des peines aussi variées qu'infamantes, plus infamante même que variée, car il s'agissait toujours de 10 ans de réclusion. Il m'arriva un jour de le sauver du bagne perpétuel. Ah, ce ne fut pas sans peine. L'habileté de mes manœuvres, visiblement inspirée par l'invisible esprit du grand mort, fit que la situation politique de Parsifal non seulement ne fut pas atteinte par ses frasques, mais qu'elle grandit d'année en année, jusqu'au jour où Parsifal, ayant cru pouvoir échapper à ma vigilance et voler, c'est bien le cas de le dire, de ses propres ailes, elle s'effondra dans le mépris. Ceci posé, et ayant donné la parole à Parsifal, celui-ci me dit « Eh bien, voilà les bêtises qui recommencent donc. Arton parle cette fois, il parle trop. Il parle même de moi. Il n'est question partout que des 47 500 francs que ce diable d'homme me versa en 2 paiements consécutifs et réguliers, esma. Oui, en effet, il en est question. Et avec quelle froideur tranquille tu accueilles cette infamie, ces potins antédiluviens et périmés. Mais tu ne sais donc pas la situation que cela me fait dans mon ménage. « Ton ménage, répliquai-je prudomesquement, cela n'a pas d'importance, c'est la situation que cela va te créer dans le pays qui est embêtante. »« Ah, le pays, je me fiche un peu du pays, » déclara Parsifal sur un ton de mépris admirable. « Mais il y a ma femme n'est pas une entité négligeable, une abstraction comme le pays. » Et les reproches, et les scènes, et les histoires. Ah, ce n'est pas fini. Ta femme, discutai-je, ça n'est pas sérieux, qu'est-ce qu'elle peut dire? Comment peut-elle te reprocher une concussion dont elle-même profita par des toilettes plus riches, un intérieur plus soigné, et par la vie plus facile que représente dans un ménage comme le sien l'aubaine imprévue de 47 500 francs? « Mais elle est accomplice, ta femme. »« Tu n'y es pas du tout, mon pauvre ami, et tu parles comme un économiste. Ma femme n'a profité de rien. Ah, ça, crois-tu franchement que j'aurais été assez bête pour donner à ma femme, là, voyons, 47 500 francs? Tu ne l'as donc jamais regardée. Mais je ne lui ai rien donné du tout à ma femme. Cet argent... je l'ai mangé avec des femmes un peu plus chouettes que la mienne. Et c'est bien ce qu'elle me reproche. Et c'est bien de cela qu'elle enrage. Tu lui as donc avoué avoir touché ces 47 500 francs? Dame, il y a des preuves accablantes, évidentes. des reçus de moi, autant tout de suite que plus tard.
C'est idiot. D'abord, qui te prouve qu'on tiendra compte des aveux d'Arton? Cette vieille affaire n'intéresse plus, ne passionne plus personne. Qui te prouve aussi qu'Arton aura fait réellement des révélations? Enfin, toi, si malin, qui n'en es pas à un mensonge près, pourquoi diable avouer? Mais il faut toujours nier, nier contre l'évidence, nier contre la preuve. Cela laisse, quelle que soit l'épreuve, de l'incertitude dans l'esprit des gens. Ah, Parsifal, Parsifal, je ne te reconnais plus.
Tu as raison, mais que veux-tu? Devant une femme furieuse, on perd la tête, parbleu. Des parlements, des tribunaux, je les eusse dominés. Devant le pays, devant la justice, je me suis déjà tiré de pas plus difficile. Mais une femme, mais ma femme, qu'en sois-tu? Alors, après mon aveu, j'ai fait la bête, tu comprends? J'ai commencé par affirmer que cette somme, je l'avais donnée à des pauvres, à des grèves, à la souscription Floquet. Ça n'a pas pris, d'autant que Floquet n'était pas mort à cette époque, et que lui-même, le pauvre Floquet, ensuite j'ai déclaré que j'aurais rougi d'apporter dans mon ménage, si austère, si estimé, l'impur argent de la honte, de ma conscience vendue, de mon déshonneur. Tout plutôt que cela. Si tu avais vu la tête que faisait ma femme. Non, vraiment, ce que les femmes se moquent de ces grands sentiments-là, c'est effrayant, mon pauvre vieux. La mienne suffoquait de rage. Elle hurlait « Canaille, bandit, tu touchais des 47 500 francs? Vendu, traître, espion, et moi je n'en ai pas eu un centime. 47 500 francs, et je me privais de tout. Et j'économisais sur mes chapeaux, mes robes, sur la bougie, sur le gaz, sur la boucherie. Et je refusais toutes les invitations. Et je n'ai pas été une fois à l'Élysée, ni au gala de l'opéra, ni nulle part. Et je restais là, parmi mes meubles fanés, comme une bête malade, dans un coin. Ah, la crapule, la crapule, la sale crapule. Dire qu'il y a plus de 5 ans que je désirais un salon anglais. Qu'il le savait, le misérable voleur, et qu'il n'a pas eu le cœur de me le payer sur les 47 000 francs qu'il touchait. Ah, c'est comme ça. Eh bien, à la prison, escroc. Au bagne, forçat. Oui, oui, le bagne, tu entends. Et c'est moi qui t'y pousserai au bagne. Enfin, tu vois cela d'ici? Les glaces, les bibelots, la vaisselle, le portrait de Félix Faure, le buste de la République, la photographie du tsar, celle de Méline et de Madame Adam, tout y a passé. La maison, c'est un pillage. Heureusement qu'il n'y en avait pas pour cher.
Et, faisant une pirouette, il ajouta d'une voix comiquement égayée.
Pas pour 47 500 francs, hé hé.
Telle est la perversité de Parsifal, qu'il souriait, avec complaisance et cordialité, en me racontant cette tragédie. Car ce n'est pas un mauvais diable dans le fond. Gambetta avait vu clair dans son âme.
« Ce n'est pas tout !» poursuivit-il en se rengorgeant et cherchant en mes yeux une expression admirative.
« Ces 47 500 francs vont mettre la justice, et du même coup ma femme, sur la piste des autres concussions dont je n'hésitais pas à charger ma conscience. Et quand ma femme aura appris que durant 15 ans de législation, j'ai touché, oui mon vieux, j'ai touché 294 000 francs, que l'Italie, la Turquie, la Russie, l'Angleterre, la Bulgarie, la Roumanie, la Principauté de Monaco, etc., etc., me font des mensualités épatantes, et que de tout cet argent, pas un centime, non, parole d'honneur, pas même un bouquet de violettes de dessous, n'est allé à ma femme. Crois-tu que cela va être rigolo?
Et pourquoi aurais-je apporté même un centime dans un ménage où je vis si peu, où je ne mange pas deux fois la semaine, où je ne reçois pas mes amis? Voyons, là, est-ce juste? Et maintenant, que vas-tu faire? Divorcer?
Mais je ne peux pas! Mais elle ne veut pas! Et c'est par là que ma situation se complique. Ma femme est furieuse, elle me déteste, oui, mais au fond, elle m'admire. Jamais elle ne m'a autant admirée que maintenant. Elle se dit, puisqu'il a touché, il touchera encore. C'est à moi de surveiller le pot de vin, d'empêcher qu'il le porte ailleurs que chez moi. Sa grande colère, ses menaces, c'est du décor tout simplement. Sa petite comédie finie, elle remisera son décor pour tendre sa bourse. Eh bien, alors, il n'y a rien de perdu. Tout est perdu, au contraire. Ma vie est perdue, car pour toucher des 47 000 francs qu'il faudrait désormais partager avec ma femme. Ah non, par exemple, j'aime mieux ne rien toucher du tout. Je ne savais que lui dire, son cas me paraissait insoluble. Déjeune avec moi, proposai-je. Nous trouverons peut-être une idée au dessert. Et, d'un doigt inspiré, je lui montrai sur le mur le portrait de Gambetta, qui semblait nous sourire, et dont la belle figure qui... la belle figure que... Parsifal, près de moi, avait laissé retomber le journal sur ses genoux, et, comme s'il eût évoqué, en même temps que moi, tous ses souvenirs, il dit dans une sorte de long soupir « Ah oui, malgré tout, c'était le bon temps. » Non, en vérité, Parsifal n'est pas un mauvais diable. Nous sortîmes ensemble et, durant un quart d'heure, nous nous promenâmes dans les jardins du casino. Tout à coup, dans une allée, j'aperçus un vieillard qui causait, d'une façon animée, avec un petit groom du restaurant. Je reconnus Jean-Jules Joseph Lagoffin, et je me mis à trembler comme si j'eusse été pris de fièvre subite. « Allons-nous-en » dis-je à Parsifal. « Allons-nous-en tout de suite !»« Qu'est-ce que tu as ?» fit celui-ci, ne comprenant rien à mes terreurs. « Est-ce Harton encore ?»« Allons-nous-en !» Et je l'entraînai vivement dans une autre allée, au bout de laquelle je savais qu'il y avait une porte de sortie sur la campagne. Très intrigué, Parsifal insista pour connaître la cause de mon trouble. Je refusai de la lui dire. Mais vous la comprendrez, chère lectrice, quand vous aurez appris ce que c'était que ce Jean-Jules Joseph Lagoffin. Voici. Ayant subi d'importantes pertes dans des affaires malheureusement moins certaines et tout aussi honorables que les syndicats du Panama, des chemins de fer du Sud et autres, force me fut, un jour, de faire argent de tout, comme on dit. Je diminuai mon train de maison et réduisis ma domesticité au strict nécessaire. Je veux dire à un valet de chambre et à une cuisinière, sans que, d'ailleurs, l'économie me parût bien notable. Ces braves serviteurs s'étant mis aussitôt, à eux deux, à me voler autant que les 5 que j'avais congédiés. Je vendis chevaux et voitures, ma collection de tableaux et de faïences persanes, une partie de ma cave, hélas, et mes 3 serres, lesquelles étaient garnies de plantes rares et magnifiques. Enfin, je me décidai à mettre en location un petit pavillon, un délicieux petit pavillon, indépendant de la propriété, et que j'avais spécialement aménagé pour des visites mystérieuses qui me coûtaient fort cher, et que je dus supprimer aussi. Par sa position isolée dans le parc et son ameublement confortable, ce pavillon pouvait fort bien convenir à un villégiaturiste de n'importe quel sexe qui, durant 3 mois d'été, eût désiré y peupler son célibat ou y cacher son adultère. Alléché par des annonces dans ce sens, beaucoup de personnes, étranges, ma foi, et fort laides, vinrent, à qui je vantais l'excellence et la sécurité de cette retraite, extérieurement tapissée de vignes vierges, car, pour l'intérieur, ce n'était point l'habitude, oh non, qu'on y vit des feuilles de vigne, et encore moins des vierges. Mais ces personnes se montrèrent si exigeantes quant aux réparations à faire. Ne voulaient-elles pas qu'on portât la cave au grenier et le grenier à la cave ? Que je ne pus m'entendre avec elles. Et je désespérais de louer jamais ce pavillon, car la saison s'avançait. Lorsque, une après-midi, un petit monsieur, très rasé, très droit, très poli et déjà vieux, se présenta, le chapeau à la main, pour visiter. Il avait des vêtements d'une coupe ancienne et qui ne faisaient pas un pli, une longue chaîne de montre chargée de breloques bizarres et une perruque d'un blond verdâtre dont l'architecture démodée rappelait les plus mauvais jours de notre histoire orléaniste. Ce petit monsieur trouva tout admirable, admirable, et ne cessa de s'extasier en termes si complimenteurs que je ne savais vraiment comment lui répondre. Dans le cabinet de toilette, devant les peintures licencieuses qui ornent les panneaux alternant avec les glaces, sa perruque eut un mouvement d'oscillation presque de tangage, et il fit « Ah, ah !» « C'est de Fragonard, » expliquai-je, ne sachant pas si ce « ha, ha » contenait une réprobation ou marquait un contentement. Mais je fus vite fixé. « Ha, ha » répéta-t-il, « de Fragonard, vraiment, admirable !» Et je vis ses petits yeux se plisser étrangement sous l'influence d'une sensation non équivoque. Après un court silence, qu'il employa à un examen plus détaillé des panneaux, il dit « Eh bien, entendu, je prends ce pavillon admirable. » Et si discret, ajoutai-je sur un ton confidentiellement égrillard, tandis que, par la fenêtre ouverte, je désignais, d'un geste éloquent, le haut, l'épais, l'impénétrable rideau de verdure qui nous entourait de tous les côtés. Et si discret, parfaitement. Devant l'enthousiasme respectueux et probablement folichon de cet accommodant locataire, je crus devoir, sous divers ingénieux prétextes et sans nulle objection de sa part, majorer de quelques centaines de francs le prix, déjà exorbitant, que j'avais fixé dans les annonces. Mais ceci n'est qu'un incident sans importance, et si j'en parle, c'est uniquement pour rendre hommage à la parfaite bonne grâce de ce petit monsieur, qui se déclara au surplus enchanté de mes façons d'agir envers lui. Nous rentrâmes à la maison, où je m'empressai de rédiger un court bail, sous sein privé, par quoi je fus amené à lui demander ses noms, prénoms et qualités. Je sus ainsi qu'il s'appelait Jean-Jules-Joseph Lagoffin, ancien notaire à Montrouge. Je le priai ensuite, pour la bonne correction de l'acte passé entre nous, de me dire s'il était marié, veuf ou célibataire. Sans me répondre, il aligna devant moi, sur la table, une rangée de billets de banque, ce qui m'obligea, sans plus, à lui donner quittance de son argent et de mes questions. « Évidemment, pensais-je, il est marié, seulement il ne veut pas l'avouer, à cause de Fragonard. » Alors je le regardai davantage. Je regardai ses yeux, qui eussent peut-être exprimé de la douceur s'ils avaient exprimé quelque chose. Mais ils n'exprimaient rien, tant ils étaient morts en ce moment. Morts autant que la peau du front et des joues, laquelle, molle, plissée et toute grise, semblait avoir été cuite et recuite à petit feu dans de l'eau bouillante. Après avoir accepté, par politesse, un verre d'orangeade, Jean-Jules-Joseph Lagoffin partit avec force remerciements, salutations et révérences en me prévenant qu'il viendrait,
si cela ne me dérangeait pas,
qu'il viendrait le lendemain même s'installer dans le petit pavillon, dont, sur sa prière, je lui remis une des clés. Le lendemain, il ne vint pas. Le surlendemain, il ne vint pas davantage. 8 jours, 15 jours s'écoulèrent sans que j'entendisse parler de lui. C'était curieux, mais explicable après tout. Il était peut-être tombé malade. Mais il m'eût écrit, son excessive politesse m'en était le garant. Peut-être la compagne qu'il devait amener dans le petit pavillon avait-elle, au dernier moment, refusé de venir. Ceci me sembla davantage plausible, car je ne doutais pas un instant que Jean-Jules-Joseph Lagoffin m'eût loué cet admirable et discret pavillon en vue d'une compagne quelconque. Ses yeux bridés à l'éblouissante vision des Fragonards et le mouvement désordonné de la perruque mettant une indication formelle de ses intentions luxurieuses. Et je jugeai que je n'avais pas à me préoccuper outre mesure qu'il vînt ou qu'il ne vînt pas, puisque j'étais payé. Payé généreusement, payé au-delà de mes espoirs. Un matin, j'allais donner de l'air aux pièces du petit pavillon, restées fermées depuis la visite de Jean-Jules-Joseph Lagoffin. Je traversai l'antichambre, la salle à manger, le salon, et, sur le seuil du cabinet, je poussai un cri et reculai d'horreur. Sur des coussins, un corps nu, un cadavre de petite fille, était étendu, effrayamment raide, les membres tordus et convulsés, comme ceux d'un supplicié de la torture. Appeler au secours, appeler mes gens, appeler tout le monde, tel fut mon premier mouvement, quand, soudain, la première impression d'épouvante passée, je réfléchis qu'il valait mieux d'abord examiner les choses par moi-même, tout seul, sans témoin. J'eus même la précaution de refermer à triple tour la porte d'entrée du pavillon. C'était bien une petite fille de 12 ans à peine, une petite fille avec des formes grêles de jeune garçon. Elle portait à la gorge des marques de doigts strangulateurs. Sur la poitrine et sur le ventre, de longues, de fines, de profondes déchirures, faites avec des ongles, ou plutôt avec des griffes pointues et coupantes. Sa face gonflée était toute noire. Sur une chaise, des vêtements de pauvresse, une pauvre petite robe effrangée et boueuse, des jupons en loques étaient rangés, presque minutieusement. Et sur le marbre de la toilette, j'aperçus, dans une assiette, un reste de pâté, 2 pommes vertes, dont l'une avait été grignotée comme par des dents de souris, et une bouteille de vin de champagne, vide. Il n'y avait rien de changé dans les autres pièces que j'examinais l'une après l'autre. Chaque meuble, chaque chose était à leur place coutumière. Alors, rapidement, fiévreusement, sans ordre, je songeais. Avertir la police? La justice? Jamais. Les juges viendraient et je ne saurais quoi leur dire. Dénoncer Jean-Jules Joseph Lagoffin? Évidemment, cet homme ne m'avait pas dit son véritable nom. Et je n'avais pas besoin d'aller à Montrouge pour savoir qu'il n'y habitait point. Alors quoi? Il ne me croirait pas. Il croirait que c'est une défaite. Il ne pourrait pas admettre que cet homme qui avait commis cet abominable crime à 2 pas de chez moi, dans une étrange maison qui m'appartenait, je ne l'eusse pas vu, pas entendu. À d'autres, on ne se moque pas de la justice à ce point. Alors, méfiant, avec des regards de hyène, ils m'interrogeraient, et fatalement, je tomberais dans le guet-apens de leurs questions insidieuses et louches. Ils iraient fouiller ma vie, toute ma vie. Fragonard m'accuserait. Fragonard crierait l'impudicité de mes plaisirs, la honte coutumière de mes luxures. Ils voudraient savoir le nom de toutes celles qui sont venues ici, de toutes celles qui pourraient être venues ici, de toutes celles qui ne sont pas venues ici.
Et les saletés des domestiques chassés, du grainetier que j'ai quitté, du boulanger que j'ai convaincu de faux pois, du boucher à qui j'ai renvoyé sa viande empoisonnée, et tous ceux qui seraient prêts, sous la protection du juge, à me salir de la boue, de leur vengeance et de leur rancune. Et finalement, un beau jour, devant mes réticences, l'embarras de mes réponses, ma peur des scandales, qu'ils prendraient pour des aveux, il m'empoignerait. Ah non, pas de juge, pas de gendarme, pas de police ici, rien. Rien qu'un peu de terre sur ce pauvre petit cadavre, un peu de mousse sur la terre, et le silence, le silence, le silence sur tout cela. Je pris la robe effrangée et boueuse, les jupons en guenilles, et j'en enveloppai, comme d'un suaire, le corps de la petite inconnue. Puis, après avoir vérifié que tout dans le pavillon était clos hermétiquement, clos aux curiosités indiscrètes ou fortuites de mes domestiques, je sortis. Durant toute la journée, j'errai autour du pavillon, attendant que la nuit vînt. Ce soir-là, c'était la fête du village, j'y envoyai mes gens, et quand je fus seul, bien seul, je me mis à ensevelir la petite dans le parc, profondément, au pied d'un hêtre. Oui, oui, le silence, le silence, le silence, et la terre, la terre, la terre sur tout cela. 2 mois après, dans le parc Monceau, je rencontrai Jean-Jules Joseph Lagoffin. Il avait toujours la même peau molle, le même regard mort, la même perruque d'un blond verdâtre. Il suivait une petite bouquetière qui vendait aux passants des fleurs de soleil. Près de moi, un sergent de ville se dandinait en regardant une bonne. Mais la stupidité de son visage me fit rebrousser chemin. Je prévis les complications inextricables, les quoi, les qu'est-ce. « Ma foi, qu'il s'arrange, me dis-je, ça n'est pas mon affaire. » Et lestement, je m'enfuis dans la direction contraire à celle du sergent de ville, de Jean-Jules Joseph Lagoffin et de la petite bouquetière, qu'un autre peut-être enfouira dans son parc sous un hêtre la nuit. Nous arrivâmes, Parsifal et moi, devant la porte de l'hôtel, sans avoir dit un mot. Parsifal avait oublié ma terreur, et il songeait sans doute au passé, car, en me quittant, il me serra la main et il me dit « Ouais, ouais, mon vieux, c'est vrai, c'était le bon temps. »